Religions du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de Religions du monde, le projet de loi en France, confortant le respect des principes de la République et qui, dans son application, entendra remédier au séparatisme islamiste, présenté mercredi dernier en Conseil des ministres. La création d'un fonds de soutien de l'œuvre d'Orient pour venir en aide aux réfugiés arméniens du Haut-Karabakh et puis de Mustafa Kemal au président Recep Tayyip Erdogan, avec Jean-François Colosimo, qui signe le sabre et le turban jusqu'où ira la Turquie, aux éditions du CERF, nous revisiterons un siècle complexe et tourmenté de l'histoire turque. Mettre fin aux écoles clandestines, couper les subventions d'associations qui encourageraient la ghettoisation et l'islamisme, création d'un conseil national des imams qui labelliserait la formation des imams, le projet de loi du gouvernement sera discuté en janvier prochain à l'Assemblée nationale. Ce projet qui a donc vu sa copie corrigée sur certains points. Avec nous en ligne, Najwa El Haïté, avocate, docteur en droit public, adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes. Najwa El Haïté, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes donc au sein également d'un groupe de travail de La République En Marche, groupe de travail piloté par Bariza Chiari, ancienne sénatrice. Et ce groupe de travail, on le verra, donc a fait un certain nombre de propositions donc parallèlement à ce projet de loi. Alors déjà, bon, ce projet, on le sait, il est critiqué à droite comme à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, Najwa El Haïté?
Moi, je pense que ce projet de loi est extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour ça que il a été présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Et donc, c'est tout un symbole. Et pourquoi je dis que ce projet de loi est important? C'est parce qu'aujourd'hui, le socle républicain est profondément malmené. Ce qui ouvre dangereusement la voie à une aventure populiste par différents radicalismes. D'ailleurs, vous constaterez que certaines voix s'élèvent pour dire « Mais pourquoi on n'utilise plus la notion de islamisme dans ce projet de loi ?» Il ne s'agit pas d'un recul, en fait. Il s'agit surtout de cibler les différents radicalistes qui sont des ennemis de la République. Et je vais être concrète, hein. Bien sûr, il y a l'islamisme. Il y a aussi l'ultra-gauche que nous avons vu dans le cadre de ces dernières manifestations, où ils ont fait quand même un certain nombre de dégâts. Vous avez vu les violences inouïes qui ont entaché ces manifestations. Donc l'ultra-gauche est ciblée. Vous avez aussi des dérives sectaires. Donc ce projet de loi, eh bien, s'attaque aux ennemis de la République. Et l'islamisme en fait partie, mais il n'est pas le seul. Donc c'est pour ça que j'estime que ce projet de loi est extrêmement important parce que vous avez aussi des mesures extrêmement importantes. Vous parliez de la création d'un Conseil national des imams. D'ailleurs, Conseil national des imams dont s'occupera le Conseil français du culte musulman. Il ne s'agit pas pour l'État de s'immiscer dans une religion. D'ailleurs, la loi de 1905, séparant les églises et l'État, l'interdit. Donc il s'agit de mettre fin aux imams détachés. Imams détachés qui, pour certains, eh bien, véhiculaient une idéologie de l'islam radical
et politique,
qui contrevient,
oui.
Exactement, et qui contrevient à nos principes républicains et à nos valeurs. Donc il n'était pas question qu'on s'inscrive dans une continuité par rapport à ces imams qui sont détachés. Donc je trouve que la création d'un Conseil national des imams est une bonne chose, mais il y a d'autres propositions qui sont aussi intéressantes et importantes. Vous avez aussi la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion, parce que vous avez aussi pu constater que des personnes ont été menacées personnellement, mais aussi leur famille, par la divulgation de leur domicile, du lieu où ces personnes travaillent. Et ça, c'est inacceptable dans notre République. C'est inacceptable.
Et puis, il y a eu l'affaire Tamel Paty, évidemment. Hein,
oui, cet
enseignant assassiné.
Exactement. Et ça a été, j'allais dire, le déclencheur d'une véritable prise de conscience.
Alors, Najwa El Haïté, la question des écoles, des écoles clandestines, finalement, le gouvernement a dû revoir sa copie dans un premier temps. Il s'agissait d'une scolarité obligatoire à partir de 3 ans.
Mais il a eu raison.
Pourquoi ?
De revoir sa copie. Et là, je prends ma casquette d'avocate.
Oui.
Parce que la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans, contrevient à la liberté d'enseignement qui est un principe constitutionnel. Et donc, on ne peut donner raison qu'au gouvernement quant à ce recul, parce que sinon, il remettait en cause une liberté fondamentale qui est reconnue par notre Constitution. Et ça, c'était pas possible.
Oui, dans le même temps, il y a des enfants, effectivement, qui sont à la maison, dans une forme de ghettoisation, hein, voulue par les parents.
Complètement. Et souvenez-vous, Geneviève, j'avais cité un exemple concret que moi-même j'avais vécu en tant qu'élue, où j'allais à la rencontre d'un artiste et au moment de garer ma voiture, je voyais différents papas accompagner leur petite fille voilée âgée de 7 ans qui se dirigeait vers un endroit assez caché, et j'ai découvert l'existence d'une école clandestine. Donc autant vous dire que ça a été un véritable choc pour moi, parce que déjà voir des petites filles voilées de haut en bas, en plus le matin, alors que normalement elles n'étaient pas en vacances, hein, ces petites filles, hein, elles devaient être à l'école de la République, mais ça aurait pu être aussi, je le rappelle et je tiens à préciser, une école aussi hors contrat, qui aussi respecte les principes de la République. Donc ça n'a pas été le cas. Il s'agissait d'une école clandestine. Et donc le gouvernement, là encore, il ne fait pas marche arrière concernant la lutte contre ces écoles clandestines. Simplement, il respecte cette liberté d'enseignement, mais il y a un contrôle qui est accru vis-à-vis de ce type d'école. Donc il s'agit de contrôler et puis de fermer avec la préfecture et l'élu local, donc le maire, de fermer ce type d'école. Donc ce n'est pas un recul, il s'agit pour le gouvernement de respecter une liberté fondamentale qui est la liberté d'enseignement, tout en ne lâchant pas la lutte contre l'existence de ces écoles clandestines dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles enseignent. Et il s'agit donc d'intensifier les contrôles vis-à-vis des écoles dans lesquelles on ne sait pas ce qui est enseigné, et peut-être des principes qui contreviennent à nos valeurs et à nos principes républicains.
Alors, autre point, Najwa El Haïté, la question de la neutralité du service public et aussi maintenant des délégations du service public. Expliquez-nous.
Alors, ce projet de loi prévoit de renforcer la neutralité dans les services publics. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de cibler les délégataires du service public. Alors, un exemple concret pour que ça parle à vos auditeurs. Prenons l'exemple d'ADP, l'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris a affaire aussi à des prestataires qui s'occupe de la sécurité. Vous savez, les personnes qui contrôlent vos valises, qui vous font passer sous un portique de sécurité, eh bien, ce sont des prestataires privés. Eh bien, il s'agit d'imposer aussi à ces prestataires privés une neutralité. Et donc, qui dit neutralité, c'est-à-dire une neutralité religieuse. Il s'agit pour les femmes d'éviter, c'est-à-dire de leur interdire de porter un voile, ou pour un monsieur de porter une kippa, ou de porter pour les sikhs, vous avez
Ce turban, oui.
Donc voilà, il s'agit d'imposer une neutralité religieuse à l'égard de toutes et tous.
Et qu'un conducteur de bus, par exemple, puisse serrer la main d'une consoeur,
c'est-à-dire un chauffeur
avec laquelle il travaille, oui.
Exactement, c'est-à-dire un chauffeur de bus, eh bien, se verra imposer une neutralité aussi religieuse. Et je vais vous dire, ce n'est pas plus mal, parce que ces transporteurs ont aussi une mission de service public, et donc ils se doivent d'avoir une neutralité religieuse puisqu'ils sont un prolongement de l'État dans leur mission.
Alors, votre groupe de travail, Najwa El Haïté, aux Républicains en Marche, donc a fait un certain nombre de propositions, et parmi ces propositions, il y a la formation universelle à la laïcité à l'école et dans la fonction publique.
Alors, on s'est intéressé à plusieurs choses, parce que déjà, on est parti d'un constat inquiétant, c'est que un jeune Français de confession musulmane sur deux serait en rupture avec les valeurs de la République, voire au-delà, c'est-à-dire que même les jeunes français ne voit pas en quoi la liberté d'expression serait atteinte si on interdit des caricatures. Donc ça, c'est extrêmement grave. Il s'agit de rappeler à cette jeunesse nos valeurs républicaines, la liberté d'expression en fait partie, c'est-à-dire, et de rappeler d'une certaine manière aussi l'histoire de France. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour qu'on reconnaisse cette liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Et donc, on est parti d'un chiffre assez alarmiste pour auditionner un certain nombre d'experts, d'universitaires, sur la laïcité, sur la montée du radicalisme, quelle qu'elle soit. Il s'agit de faire de la pédagogie vis-à-vis de la laïcité. La laïcité, quand vous demandez à un agent public dans certaines collectivités, eh ben, il sait pas ce que c'est que la laïcité. La laïcité, je vais être synthétique, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est aussi une neutralité religieuse qu'on demande aux agents publics. Donc, il s'agit aussi de former les agents publics à cette thématique de la laïcité. Et donc, quand on parle d'universalisme, il s'agit de montrer que la laïcité, c'est un principe de liberté et d'égalité. Et donc, il s'agit de former les agents publics, mais il s'agit de sensibiliser aussi nos jeunes à cela pour qu'ils ne sombrent pas vers des idéologies mortifères qui leur disent en fait que la laïcité, c'est plus un principe d'intolérance et de rejet. Ce qui est complètement faux. Et donc, les mesures que l'on propose, c'est des mesures de formation des agents publics, mais aussi de formation des jeunes. Donc, l'école a un rôle fondamental dans cet enseignement et dans cette pédagogie pour comprendre ce qu'est réellement la laïcité.
Que la laïcité, c'est effectivement positif pour tous.
Complètement, c'est un principe avant tout de liberté et d'égalité.
Dernière question, Najwa El Haïté, l'islamophobie. Voilà, le gouvernement s'est largement défendu en présentant ce projet de loi. Il n'y a absolument aucun esprit d'islamophobie dans ce projet de loi, tout le contraire. Est-ce que ça peut être compris ? Est-ce que ça peut être compris, cela ?
Il faut l'expliquer. Et il faut que le gouvernement fasse preuve de pédagogie là-dessus. Parce que, en fait, ce projet de loi n'est pas une loi contre l'islam ou contre les musulmans. C'est faux de dire ça. Et je sais que la France insoumise...
L'ultra-gauche, oui.
L'ultra-gauche agite le chiffon rouge pour dire, voilà, c'est un projet de loi anti-musulman. Ce qui est archi-faux. Il s'agit au contraire de lutter contre l'islamisme, mais aussi contre toutes les formes de radicalisme. Et l'utilisation, et j'en terminerai par là, l'utilisation de la notion d'islamophobie est dangereuse. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'islamophobie, c'est la haine du musulman et c'est la haine de l'islam. Et vous avez feu le CCIF qui...
Le comité contre l'islamophobie, oui.
Exactement. Qui agitait ce chiffon rouge en disant, eh bien, nous sommes contre l'islamophobie. Mais je suis désolée, il n'y a pas d'islamophobie en France. On parle de discrimination. Les discriminations, elles existent. Mais agiter ce chiffon rouge pour pointer du doigt une islamophobie qui n'existe pas en France et au contraire qui alimente une victimisation parce que on interdit par ce mot-là de parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. À un moment, d'ailleurs, ce projet de loi a des mesures importantes concernant ce principe d'égalité et lutte contre la polygamie. Eh bien, le terme islamophobie vous interdit de parler de ces questions-là. Il vous interdit de parler des questions qui fâchent et qui aussi touchent à ce principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège de victimisation où on dit, dès qu'on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre la polygamie, eh bien, d'une certaine manière, on cible l'islam. Mais je suis désolée, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe qu'il faut défendre parce que c'est un principe républicain, inscrit dans notre constitution. Et donc l'islamisme qui prône l'inégalité entre les femmes et les hommes est inacceptable pour tout bon républicain.
Merci Najwa El Haïti.
Merci à vous Geneviève, merci pour votre invitation.
En Arménie, le Premier ministre Nikol Pachinian doit affronter la contestation de la rue depuis l'accord de cessez-le-feu signé le 10 novembre avec l'Azerbaïdjan sous l'égide de la Russie qui entérine la victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre du Haut-Karabakh et la rétrocession de territoires autour de cette enclave du Caucase. Cette guerre, qui a fait au total 8000 morts, dont 2300 soldats arméniens, a déplacé 90 000 civils de Haut-Karabakh. Ils sont aujourd'hui à Yerevan, la capitale de l'Arménie, à Goumri, près de la frontière avec la Géorgie et la Turquie, et à Tsakhador. L'œuvre d'Orient, qui vient en aide aux chrétiens d'Orient depuis plus de 160 ans, a lancé un fonds de soutien pour ces populations déplacées. Et on fait le point avec Églantine Gabay-Yalé de l'œuvre d'Orient de retour d'Arménie. Églantine, bonjour.
Bonjour.
L'œuvre d'Orient donc a lancé un fonds pour venir en aide aux populations déplacées, 90 000, je le disais. L'œuvre d'Orient s'appuie sur la Caritas d'Arménie et puis aussi sur l'œuvre de sœur Arousiag, qu'on appelle donc la mère Teresa d'Arménie.
Oui, en effet, on travaille avec sœur Arousiag et donc les sœurs arméniennes de l'Immaculée Conception qui sont catholiques dans un pays à majorité apostolique, soit orthodoxe, on dirait, et qui, depuis le tremblement de terre qu'il y a eu en 88 à Goumri, qui a ravagé une partie de l'Arménie, a installé un orphelinat et une école, un lycée même, et une maison de retraite pour les personnes âgées. Et donc elle est fortement implantée à Goumri, où son œuvre sociale se déploie, ainsi qu'à Tsakhador, où elle accueille chaque année, enfin elle accueille elle et ses sœurs, les autres religieuses, à peu près 800 à 1000 enfants chaque été qui se relaient dans ce camp de vacances. Et là, depuis le début de la guerre, eh bien elles ont ouvert leurs orphelinats, leurs maisons de retraite et leurs camps de vacances à toutes ces personnes déplacées. Il a fallu s'organiser un peu comme ça au dernier moment. Et donc nous, l'œuvre d'Orient, on a essayé de l'aider assez vite parce que notamment, il n'y avait pas du tout de chauffage à Tsakhador, qui est un immense bâtiment. Et puis, il faut nourrir une centaine, 150 personnes chaque jour, trois fois par jour, avec des enfants, des adolescents. Et puis, ce sont aussi des gens qui sont partis sans rien du tout, parfois juste avec des savates. Et l'hiver approchant, il fallait aussi leur donner de quoi se vêtir.
Et actuellement, effectivement, l'hiver est tout à fait rigoureux oui. Au Haut-Karabakh et en Arménie. L'œuvre d'Orient restaure, c'est ça, en aide avec l'Église apostolique arménienne et réhabilite un ancien orphelinat, c'est cela ?
Oui, c'est cela. Il faut savoir qu'à Goumri et puis un peu partout en Arménie, il y a beaucoup d'anciens bâtiments russes désaffectés, dont certains sont des anciennes casernes et parfois qui sont devenus ensuite des orphelinats, notamment au moment du tremblement de terre, et qui étaient peu à peu abandonnés. Et donc ils sont souvent en bon état, enfin il y a des murs et ils sont habitables, mais les hivers arméniens étant ce qu'ils sont, sans chauffage, c'est impossible à vivre. Donc il y avait souvent des gros travaux à faire et donc on s'est mis via le préfet de Goumri, le gouverneur de Goumri, en lien avec cette association de l'Église apostolique qui avait identifié ce bâtiment comme pouvant recevoir environ 200 personnes assez vite, à condition que le chauffage soit rétabli, évidemment.
Alors, vous avez été frappé en Arménie par cette grande fraternité. Personne n'est dehors, personne n'a jamais dormi une nuit dehors, ce qui n'est pas toujours le cas quand il y a des départs précipités. Et puis, vous avez été aussi frappé par l'accueil qu'on vous a réservé, vous, en tant que Française. Églantine.
Oui, alors c'était assez surprenant. L'arménien est une langue compliquée, mais enfin, quand on dit qu'on est français, ça se comprend assez vite. Et à chaque fois, même dans des villages assez reculés, où je pense que les gens ont un accès aux médias vraiment très limité, ils me citaient le nom de notre président en disant « mais c'est le seul à s'être engagé publiquement quand le monde entier est silencieux face à ce qui est en train de se passer ». Et donc il y a toujours une forte attente envers la France. Et je pense que cette attente et cette francophilie, on peut dire que les Arméniens sont assez francophiles, a été très déçue après le cessez-le-feu. feu. Et que, en fait, l'attente était tellement immense que quand ils se sont rendus compte que finalement notre gouvernement n'intervenait pas plus que ça, il y a eu beaucoup d'amertume.
Je vous remercie, Églantine Gabeyalé. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à l'œuvre d'Orient. Merci.
Merci à vous.
Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie? C'est la question que pose Jean-François Colosimo dans son dernier livre publié aux éditions du Cerf. D'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, aux expéditions militaires du président Erdogan qui affiche sa volonté de prendre le leadership du monde musulman sunnite, un siècle après le congrès de Sèvres en 1920 qui signa le démembrement de l'Empire ottoman, cet essai entend éclairer sous une lumière nouvelle l'histoire contemporaine de la Turquie. Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour, Geneviève Delrue.
Votre livre est à la croisée de l'histoire, de la politique, de la géopolitique et de la religion. Nous mettrons naturellement dans cette émission l'accent sur l'islam et son instrumentalisation politique. Mais déjà, une question et votre réaction à la venue cette semaine du président Erdogan à Bakou, qui a rencontré le président azerbaïdjanais un mois après l'accord de cessez-le-feu, le 10 novembre, signé entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Que vous inspire cette visite du président turc?
C'est une visite triomphale, c'est une visite pour marquer le territoire, c'est une visite pour marquer l'alliance. Alors justement, d'un point de vue, je dirais à la fois ethnique et religieux, cette alliance, quand on la regarde sur le papier, elle est un peu surprenante. Pourquoi? Parce que le président Erdogan lui-même, et la majorité des Turcs sont des sunnites. Et les Azéris, les Azerbaïdjanais, sont en majorité des chiites. Et vous savez que c'est devenu une forme de lieu commun, qu'il y a dans l'islam une guerre civile entre sunnites et chiites. D'ailleurs, c'est même, je dirais, devenu quasiment un thème de conversation de bistrot, ce qui montre quand même, croyez, que l'importance du facteur religieux dans la vie d'aujourd'hui, c'est que c'est devenu quelque chose d'assez finalement connu et répandu, même si c'est souvent mal maîtrisé. Donc là, on voit en fait qu'on a un peuple sunnite et un peuple chiite qui se retrouvent dans une guerre commune au sein du Caucase contre cette Arménie chrétienne. Mais on voit aussi que la Russie, qui est censée être très orthodoxe et très chrétienne, finalement joue son propre jeu sans égard pour le facteur religieux. Donc tout ça, vous voyez, nous oblige un peu à réfléchir sur la complexité du monde. Mais alors, évidemment, des sunnites et des chiites, mais ils ont quand même quelque chose en commun, c'est la langue. C'est-à-dire que ce sont deux peuples turcophone. Et on voit que donc, il y a une forme de rapprochement qui peut être ethnique, qui peut être linguistique, qui peut être confessionnel, ou qui, au contraire, peut dépasser le côté confessionnel pour former des alliances, donc, sur d'autres critères. Cette visite en Azerbaïdjan, elle rejoint, en fait, surtout, parce que c'est souvent comme ça, en politique, mais ça découle aussi de l'instinct religieux. Ce qu'ils ont en commun avant tout, c'est l'ennemi. C'est l'Arménien. N'est-ce pas? Le génocide des Arméniens en 1915 est accompli sur le terrain par les Kurdes qui demanderont pardon plus tard, mais en 1918, l'armée islamique du Caucase, qui est en Azerbaïdjan, qui est composée d'Azéris, est gouvernée par Enver Pacha, l'un des trois jeunes Turcs, le fameux triumvirat qui fait le génocide, et là les Arméniens sont aussi massacrés, parce que ces Arméniens en 1915, ou aujourd'hui, en fait, il crée un obstacle à la jonction des peuples turcophones. Et les peuples turcophones, c'est pas que l'Azerbaïdjan. Ce sont évidemment aussi tous les stans, les Kirghizistan, Ouzbékistan, et puis beaucoup plus loin, les Ouïghours de Chine, qui ont pour eux, aux yeux du président Erdogan, d'être musulmans, mais aussi turcophones. Vous voyez? Donc on a une sorte de millefeuille, en fait, identitaire. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Pour comprendre tous ces mouvements, il faut pas y aller trop simplement. Mais là, on voit que ce qui les unit, encore une fois, c'est l'ennemi commun, ces Arméniens que le président Aliyev, même si après il a voulu amender sa formule, dans un premier temps, a décrété, ces Arméniens qu'il a décrété, le président d'Azerbaïdjan, être des chiens qu'il fallait chasser.
Jean-François Colosimo, merci pour cette explication. Je reviens à votre livre. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est effectivement Cette Turquie que l'on n'a pas du tout compris, que l'Europe n'a absolument pas compris. L'Europe a pensé effectivement que Atatürk, hein, ça commence par là déjà, quand il crée en 1923 la Turquie moderne, eh bien c'est l'homme de l'Occident, de l'occidentalisation, et que aujourd'hui, eh bien Erdogan c'est son contraire. Alors qu'en fait, Erdogan n'est que le double inversé d'Atatürk. Alors, expliquez-nous.
C'est comme ça qu'il se conçoit, parce qu'on utilise beaucoup de formules qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins vagues. Oui. Erdogan, le nouveau sultan, le nouveau calife, le restaurateur de l'Empire ottoman. Non, Erdogan, il a dans son rétroviseur Atatürk, parce qu'Atatürk, c'est le fondateur. Et lui, il se veut le refondateur. Alors évidemment, tout semble les opposer, puisqu'on a un général révolutionnaire, réformiste, occidentaliste, comme vous l'avez dit d'un côté.
Franc-maçon un peu aussi, dans l'esprit.
Oui, qui a fréquenté les francs-maçons, mais il les a trouvés un peu trop sectaires par rapport à son idéal national. Enfin, sectaires au sens de couper, quoi. Oui. Au sens d'une fraternité trop fermée. Mais oui, enfin, lecteur de Rousseau, bon. Et puis d'un côté, en face, vous avez un réactionnaire, un conservateur, un islamiste, un fondamentaliste.
Qui a quitté l'école, d'ailleurs publique, pour aller dans une madrasa.
Oui, mais voyez, c'est intéressant ce que vous dites, madrasa.
Ah, c'est votre livre qui
le dit. Oui, école coranique, oui. Mais Atatürk, lui, quitte l'école publique pour l'école militaire. Et vous avez ces deux axes qui viennent de l'Empire ottoman. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est que la Turquie moderne, elle naît de la décomposition des ruines et des décombres de l'Empire ottoman dans un geste angoissé de survie. C'est ce qui lie les deux hommes aussi.
Donc deux traités, 1920, le traité de Sèvres, puis le traité de Lausanne, 1923.
Absolument, une Turquie qui aurait été réduite au plateau d'Anatolie en 1920, avec l'existence d'une grande Arménie, d'un grand Kurdistan, et puis en 1923, parce que Kemal sort d'Anatolie, amène le peuple avec lui, fait une guerre de révolution nationale, une grande Turquie, par rapport à ce qui avait été prévu 3 ans plus tôt, et c'est la Turquie du traité de Lausanne. Mais voyez, madrasa, vous dites oui, il va vers une madrasa. Mais au fond, c'est ça, les deux héritages fondamentaux de l'Empire ottoman. C'est d'un côté la caserne, Atatürk, c'est de l'autre la mosquée, Erdogan. Et vous pouvez dire que les 100 ans d'existence de la République turque, qui hérite de l'Empire ottoman, mais qui n'est plus l'Empire ottoman, qui va aller contre l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman, c'est une mosaïque de peuples, de cultes, de cultures, et que la Turquie, c'est une république qui veut construire un citoyen unique, formaté, turc, et sunnite.
Turc nouveau.
Le turc nouveau, c'est une forme, comme nous avons connu en Europe d'ailleurs, forme de démiurgie nationale, de création nationale, de laboratoire national. Dans ce laboratoire national, on va y revenir, l'aspect religieux est très important, mais la caserne, la mosquée. La caserne, c'est Atatürk, la mosquée, c'est Erdogan. Vous avez une alternance entre les deux. Et quand vous regardez l'histoire turque, en fait, pour aller assez vite, pour prendre une formule qui va peut-être nous permettre d'avancer, c'est que Atatürk, il nationalise l'islam. C'est ça pour lui la laïcité. La laïcité, ça veut dire que la religion est soumise à l'État. Et le pouvoir spirituel est soumis au pouvoir temporel. Mais enfin, il nationalise l'islam. Et Erdogan, lui, il islamise la nation. Pourquoi? C'est pas la Turquie qui a changé, c'est le monde qui a changé. Les grandes vitamines idéologiques, les super-pouvoirs idéologiques, la manière dont l'idéologie peut mobiliser, alimenter un peuple, le faire s'armer, le faire fier de lui-même, déjà, pour commencer. Mais ce n'est plus du tout les mêmes repères. Si, ce sont les mêmes, ou plutôt c'est le même moteur, une construction nationaliste très importante, dans laquelle la religion est dissoute dans le fait national, mais en même temps, cette religion, en l'occurrence c'est l'islam sunnite, orthodoxe, eh bien, le moteur est le même, le carburant change. Il y a 10 à 20% d'islam dans le carburant Atatürk, il y a 80% d'islam dans le carburant Erdogan. Mais encore une fois, l'islam, en tant que force politique en 1920-1930, n'existe guère à ce moment-là, pas comme aujourd'hui en tout cas.
C'est pas la question à l'époque du tout.
La grande question de l'époque, c'est le communisme.
Exactement.
C'est pas le fondamentalisme religieux. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Et donc, on voit bien que c'est la même Turquie, simplement. La Turquie, c'est ce pays tout à fait, alors il faut le dire au passage, un pays extraordinaire, un peuple plein de vertus, un peuple hospitalier, des paysages magnifiques, une sorte de musée à ciel ouvert où plusieurs civilisations s'étagent, des intellectuels formidables, qui sont de plein pied européens, des prix Nobel de littérature, des journalistes.
Les muselés.
Mais aujourd'hui, qui sont soit en prison, soit en exil, mais bon, un peuple plein de vertus, en tout cas, il faut le dire. Mais le problème, c'est que ce peuple a beaucoup souffert sur ces petits 100 ans, parce que ça fera 100 ans en 2023, ce peuple, il a beaucoup souffert, parce qu'il a été soumis, en quelque sorte, à une transformation forcée. Alors, dans le cas d'Atatürk, c'est visible.
Oui, avec les femmes qui devaient enlever leur voix, l'obligation, les hommes le faisaient.
On change tout, l'alphabet, la semaine, le jour chômé.
C'est le dimanche, oui.
Européanisation, de ce point de vue-là.
La marche forcée.
De ce point de vue-là, Atatürk est plus proche de Mussolini ou de Staline, je parle pas pour le goulag, je veux dire, mais pour la transformation quasiment, la divinisation de la force politique comme force de transformation, il est plus près de Staline et de Mussolini qu'il n'est près de Daladier, de Chamberlain, ou de Wilson, ou de je ne sais trop qui d'autre, enfin, vous voyez, ou d'Aristide Briand. Bon, dans l'époque, c'est un de ces chefs politiques qui est quasiment investi d'un pouvoir de droit divin.
Et visionnaire, faut quand même le dire aussi, non?
Oui.
Vous n'allez pas jusque-là?
Si, visionnaire. D'abord, bon, grand militaire, hein, un soldat extrêmement courageux, il a montré aux Dardanelles, c'est un héros de guerre, un grand tacticien. Mais il est finalement comme Erdogan, il faut pas sous-estimer Erdogan. Erdogan est aussi un personnage d'exception. Il montre véritablement des ressources politiques.
C'est un stratège
phénoménal. Et donc, les deux hommes, pour moi, en fait, vous voyez, c'est pas un duel, comme nous on l'imagine, c'est un duo. C'est la même Turquie qui doit grandir, qui doit rayonner, qui doit, en quelque sorte, dominer le monde, qui doit prendre la revanche sur l'humiliation de la fin de l'Empire, sur la présence des soldats anglais, français, à Constantinople, juste avant la création de la République, et qui, eh bien, la question qui est dans ce pays aura essayé tous les extrêmes, en fait. Et donc, ce pays aura essayé de faire une religion d'État, avec Atatürk, Et il essaie aujourd'hui de faire un état religieux avec Erdogan, mais la religion reste la vraie question, là, c'est sûr.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Jean-François Colosimo pour son livre « Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie ?» Une Turquie, Jean-François Colosimo, qui a du mal à trouver son identité, hein, c'est ce que j'ai quand même retenu de votre livre. C'est quasiment une psychanalyse de la Turquie, votre livre d'ailleurs, on pourrait dire ça. Déjà, bon, 1453, la prise de Constantinople, bon, la Turquie va se retrouver finalement à choisir entre deux mondes, l'Orient et l'Occident, entre le christianisme et l'islam.
Oui, enfin, en tout cas, lorsque Mehmet le Conquérant entre dans Constantinople en 1453, finalement conquise. Alors qu'il faut savoir que la conquête de Constantinople, parce que Constantinople, c'est la nouvelle Rome. Nous, on a un peu oublié ça. Et Sainte-Sophie, c'est le plus grand sanctuaire du monde à l'époque, du monde connu. Donc, conquérir Constantinople, conquérir la nouvelle Rome, conquérir Rome, parce que l'autre Rome, la nôtre, bon, elle est très loin pour le monde musulman, et puis c'est plus une ville dominante, c'est la ville du pape, mais elle n'est plus dominante politiquement. Là, c'est la ville de l'Empire romain d'Orient. Conquérir cette ville, c'est une obsession pour les compagnons du prophète depuis la mort du prophète. Il y a eu plusieurs tentatives arabes, pas turques. Donc, quand Mehmet réalise ça, il réalise un long rêve. Sa première visite, elle est pour Sainte-Sophie. Après avoir fait réciter la prière coranique, il monte sur l'autel de Sainte-Sophie, le piétine. Mais ça, c'est pas un geste musulman. C'est un geste des Césars, des empereurs romains d'Occident païens. Ça veut dire qu'on entre dans une ville, on s'empare du temple. Et on piétine les dieux de ceux qu'on a vaincus parce qu'on impose son dieu. Et à partir de ce moment-là, l'Empire ottoman va véritablement, je veux dire, assumer l'Empire byzantin. Son administration, son art. La mosquée turque, elle reproduit Sainte-Sophie. C'est une mosquée à coupole, n'est-ce pas?
C'est son pendant.
Voilà, c'est son pendant. Et donc, l'Empire ottoman va être imprégné de byzantinité culturelle, politique, structurelle, administrative.
Et c'est difficile, ça?
C'est difficile, parce que d'un autre côté, pourquoi c'est difficile? Parce que l'Empire byzantin, même si c'est pas tout à fait le modèle européen occidental, la séparation des pouvoirs, ça reste quand même un modèle évangélique, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui n'est pas tout à fait le système du califat.
Ce qui est même le contraire, oui.
Et c'est même le contraire. Et donc là, il y a déjà un peu, pour moi, une forme un peu, vous parlez de psychanalyse, il y a un peu de schizoïdie sympathique, qui s'installe parce que, au fond, ce monde turc, il va être, c'est vrai, vous l'avez dit, à la fois d'Orient et à la fois d'Occident. Et il va pas cesser, en fait, d'essayer de passer de l'un à l'autre.
Dans votre livre, Jean-François Colosimo, Le sabre et le turban, vous écrivez que la Turquie est malade, finalement, de ses minorités, de ne pas avoir accordé de place à ces minorités, dont les Alévis. Qui sont les Alévis ?
Alors, bon, il faut savoir que ce combat, la Turquie qui vit cette angoisse d'avoir peut-être pas pu exister, elle aurait pu ne jamais être, elle aurait pu être engloutie sous les traités internationaux.
Bah, celui de Sèvres, oui, déjà, était beaucoup plus
restrictif.
Oui.
Donc, cette Turquie qui naît de cet empire, elle considère que les minorités, parce que l'Empire Ottoman, c'est un monde de minorités accumulées, n'est-ce pas, que ce monde de minorités est en quelque sorte responsable de la décomposition de l'Empire, de la chute de l'Empire. C'est ça l'idée fondamentale. Et alors évidemment, s'il y a l'idée que les Arméniens voulaient leur indépendance et étaient les alliés des Russes, il y a l'idée que les Grecs, c'est 1921-22, c'est la guerre avec la Grèce qui est soutenue par Paris et par Londres au départ, et puis Paris va finalement changer de pied d'une manière pas très loyale, que cette guerre, elle est menée contre les Grecs, ça mène à la déportation des Grecs d'Asie mineure. Donc vous avez un pays, la Turquie moderne n'est pas responsable du génocide arménien, c'est l'Empire Ottoman et les jeunes Turcs. Mais malgré tout, il y a le trou noir du génocide. Et puis après, il y a la première grande purification ethnique du XXe siècle, avec la bénédiction de la Société des Nations, lancée des Nations Unies. Il y a ces Arméniens, ces Grecs, il y a les Juifs aussi. Tout ça, ils sont indésirables parce qu'ils peuvent pas être intégrés.
Oui.
Et puis après, il y a les autres qui sont indésirables aussi parce qu'ils... Alors ceux-là, ils peuvent pas intégrer parce qu'ils sont ni musulmans, ni turcs. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas intégrer parce qu'ils sont pas turcs. Ce sont les Kurdes. Mmh. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas être intégrés parce qu'ils ont beau être turcs, peut-être. Ils sont pas tous turcs, il y a des Kurdes, enfin, etc. Parce que la mosaïque, elle ressort toujours. Elle est niée, mais elle ressort toujours. Ils sont pas orthodoxes sunnites. Ils participent pas du sunnisme orthodoxe, de l'islam qu'a choisi l'État comme étant le seul islam possible. Ce sont les Alévis, vos fameux Alévis, qui représente en fait une tendance de l'islam qui est assez hétérodoxe du point de vue de l'orthodoxie sunnite, qui est une tendance qui intègre beaucoup des livres révélés, que ce soit la Bible hébraïque, la Bible chrétienne, qui a des rites assez particuliers, assez ésotériques d'initiation, mais qui a aussi des pratiques rituelles qui sont assez éloignées, encore une fois, de l'islam orthodoxe, puisque il y a une forme d'égalité entre les sexes qui est reconnue. Il y a des maisons de prière qui sont tout de même des maisons de spiritualité assez libres. On pourrait dire, finalement, les Alévis, c'est une forme de spiritualisation de l'islam, détachée, en quelque sorte, des contraintes, avec une forte notion d'égalitarisme. Ça, c'est important parce que ça va expliquer la traduction politique des Alévis, sinon on comprendrait pas. Et donc, avec beaucoup d'aspiration à la liberté. Et puis, le fait que les Alévis ont été aussi persécutés sous l'Empire Ottoman. Puis, c'est une constellation aussi. Dans les Alévis, il y a les Bektachis qui vont avoir un sort un peu plus particulier, mais qui correspondraient, pour aller très vite, aux derviches tourneurs. N'est-ce pas? C'est donc tout cet univers très mystique, d'un côté. Un peu ésotérique. Assez initiatique, où on est volontiers syncrétique, on s'intéresse aux autres religions, on s'en nourrit dans une espèce de spiritualité coiffant les confessionnalismes, les dépassant. Et puis, de l'autre côté, la traduction politique, c'est le libéralisme dans la société.
Et là, ça passe pas.
Et les deux ne passent pas. Mmh. Or, vous savez que c'est Atatürk qui crée la Diyanet,
c'est-à-dire
le ministère des cultes, oui, mais c'est un ministère des cultes. Cette organisation, finalement... Tous ceux qui ne sont pas des musulmans conformes au modèle de cette organisation doivent malgré tout passer par cette organisation. Alors, finalement, ce qui se passe au cours du XXe siècle, c'est que les minorités qui étaient importantes sont, pour celles qui étaient véritablement, on pourrait dire, un peu hétérogènes, qui n'étaient ni turques ni musulmanes, elles sont en décroissance totale au point qu'elles sont quasiment inexistantes aujourd'hui. Quand même se rappeler que sur le territoire actuel, de la Turquie actuelle, n'est-ce pas? En 1910, il y a à peu près 35% à 40% de chrétiens. D'ailleurs, cette terre, c'est la terre des sept conciles œcuméniques, c'est la terre de Saint Paul. C'est la terre des pères cappadociens qui ont fait la foi de Nicée, la foi dans l'incarnation du Christ. Oui. C'est un territoire chrétien et ça continue.
Et aujourd'hui, 0,1%. Voilà, c'est
0,1%.
Et patriarcat de Constantinople.
Qui est crucifié, on peut le dire, qui vit une situation très pénible, alors que c'est le primat spirituel de 300 millions d'orthodoxes à travers le monde. Mais il y a un patriarcat arménien aussi qui, lui aussi, est très pressuré. Il y a évidemment aussi les juifs qui sont en décroissance totale, alors qu'ils étaient une composante très importante. Les vrais séfarades, ce sont eux au sens historique. C'est-à-dire, ces juifs d'Espagne qui sont arrivés à Istanbul et qui ont été accueillis à Istanbul après 1492. Donc, vous voyez, une bigarrure extraordinaire. Et dans cette bigarrure extraordinaire, il y a un fait qui est important. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, les deux communautés qui restent, qui n'ont pas été éteintes, où les gens n'ont pas fui à la suite de pogroms, de difficultés administratives à vivre, de citoyenneté de deuxième classe, ce sont les Kurdes. Alors, eux aussi, ils sont sous tous ces... Mais eux, ils ont résisté parce qu'ils avaient le nombre. Et les Alévis. Donc vous avez à peu près 25%, toujours difficile à savoir, enfin 25% de la population qui est kurde et 20% qui est Alévi. C'est énorme. C'est des gens qui n'ont pas d'existence légale. Et en plus, ils se recoupent. C'est-à-dire qu'un tiers des Kurdes sont Alévis, un tiers des Alévis sont Kurdes, et certainement les Alévis aussi ont apporté, alors la société kurde l'avait en elle, parce que c'était très structuré, pas sur un modèle tout à fait oriental, il y a des accents d'occidentalité innés sur la relation des sexes, on le voit aujourd'hui, hein, pas avec les femmes guerrières engagées de l'autre côté, dans etc. Le consensus, des formes démocratiques. Mais les Alévis ont apporté en plus au mouvement kurde cette véritable ambition de se détacher à la fois du féodalisme et de l'autocratisme. Et c'est la conjonction de ces deux mouvements qui a été complètement réprimée après le coup d'État avorté de 2016.
Le 10 juillet dernier, donc, Sainte-Sophie a recouvré son statut de mosquée. Hein. Avant, c'était depuis Atatürk, donc un musée. Alors, il y a une heure très significative hein, pour cette signature de cette reconversion, 14h53.
Oui, parce que Recep Tayyip Erdogan est extrêmement fort, vous savez, sur l'histoire,
les symboles.
Sur les symboles. Alors, ce qu'il y a, bon, peut-être qu'il parie un peu trop sur la mémoire des Européens eux-mêmes.
Il est peut-être un peu loin, d'ailleurs.
Oui, peut-être qu'il mésestime un peu l'amnésie européenne des Européens sur leur propre histoire. Mais effectivement, il annonce, il dit « j'ai signé à 14h53 », c'est-à-dire c'est l'année de la conquête qui convertit en horaire
c'est
de
ça.
Signature. Et puis, la première grande prière a lieu le jour anniversaire du traité de Lausanne, quelques jours après, le 24 juillet. Et là, on est là aussi face à cette volonté de marquer l'histoire, parce que qui fait le prêche ? C'est le directeur de la Diyanet, ce ministère des cultes, département en fait, qui a été créé par Atatürk, mais qui sous Erdogan compte à peu près 120 000...
Il y a un très gros budget.
120 000
fonctionnaires
et 3 milliards, au moins 3 milliards d'euros de budget. C'est phénoménal. Comparé aux autres ministères turcs, comparé à certains ministères
français.
Même.
Oui.
Même
la culture.
Oui. Oh, mais c'est 10 fois la culture. Mais c'est important parce qu'effectivement, c'est le nerf.
C'est le recteur, vous dites.
C'est la colonne vertébrale du régime, du système, soit Atatürk comme soit Erdogan. C'est où est la place de la religion dans la nation? C'est l'État qui la décide, cette place. Et donc là, l'État décide que c'est le directeur de la Diyanet qui va faire le sermon, le prêche de ce vendredi, qui restaure Sainte-Sophie comme une mosquée califale, ce qu'elle était, la mosquée du califat. Et donc, le directeur de la Diyanet donne un prêche qui ne porte pas sur le Coran du jour, qui ne porte pas sur les vertus religieuses ou la mystique, etc., mais sur la conquête. Et il explique que c'est le retour à la conquête, que c'est la reconquête. Il célèbre les vétérans de la conquête. Il appelle à la conquête. Et il fait tout ce prêche, évidemment vêtu d'un turban, et avec un sabre à la main qui est le sabre d'Osman, le sabre de la dynastie ottomane. Voilà. Donc, il fait penser à ce sabre, c'est pas celui-là, évidemment. Une réplique.
Une réplique, oui.
Une réplique. Et en fait, on est là, au cœur, finalement, à la fois de cette angoisse qui fonde la Turquie, et qui fait qu'elle n'arrive pas à trouver sa paix, et nous, du coup...
Avec,
c'est que cet esprit de la conquête, en quelque sorte, c'est une compensation face à la défaite. voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors cette conquête, elle est plus ou moins exaltée, elle est plus ou moins exaltante. Atatürk s'empare du Sanjak d'Alexandrette, ça on dirait un nom digne d'Hergé et de Tintin. C'est le coude de la mer Méditerranée qui est en face de Chypre et qui correspond en fait au littoral de la Syrie. C'est nous qui lui donnons, parce qu'on est puissance du protectorat à l'époque, et les Syriens vont s'en souvenir pendant longtemps de ce mauvais coup.
Et oui, aujourd'hui, la conquête, c'est Erdogan
en
Méditerranée orientale,
en Égypte,
en Syrie.
Parce qu'il faut briser cette muraille que forment les îles grecques en face de la Turquie. Il est en Libye, parce que à côté de la Libye, il y a le canal de Suez qui permet d'aller vers la Mecque, et aussi de tenir les migrants. Il est présent, évidemment, en Syrie et en Irak, mais Atatürk, Kemal, revendiquait Alep et Mossoul en 1930. C'est la France et la Grande-Bretagne qui ont dit non. Mais ils disaient Alep et Mossoul sont des villes turques. Parce qu'on est là sur la bande qui part de la Méditerranée et qui remonte en boucle jusqu'à la Caspienne, qui est la bande qui différencie le monde anatolien du monde arabe. Et puis évidemment dans le Caucase, où l'Empire ottoman avait été chassé par l'Empire russe à partir du XVIIIe siècle. Donc, on est dans une forme de réinterprétation. Demain, il y aura certainement à nouveau les Balkans, avec le Kosovo, l'Albanie, qui sont des territoires ottomanisés, islamisés parce qu'ottomanisés. Et puis, il y a les Ouïghours de Chine. Et puis, il y a l'avancée en Afrique de l'Ouest. On a une espèce de volonté comme ça. Et pourtant, à l'intérieur du pays, qu'est-ce qui se passe? C'est un pays qui est sorti d'un putsch, d'un énième putsch. C'est un pays où il y a des dizaines de milliers de personnes emprisonnés. C'est un pays où les élites sont soit au cachot, soit en exil. C'est un pays où le président Erdogan en a fini avec sa magie qui était d'assurer la prospérité. Aujourd'hui, la livre turque, malheureusement pour les Turcs, décroche et l'économie va mal. C'est un pays aussi qui, malgré tout ça, malgré, je veux dire, ces scènes tragiques où le peuple est sans arrêt pris entre les tanks, les soldats et les imams, ce peuple valeureux, bon ben, il se donne des maires libéraux comme aujourd'hui à Istanbul, puisque c'est un opposant de M. Erdogan qui est maire d'Istanbul, comme à Ankara, c'est un opposant de M. Erdogan. Donc il y a à la fois cette vitalité extraordinaire et cette sorte d'empêchement pour atteindre une histoire qui serait enfin pacifiée, parce que cette histoire, elle regarderait et elle verrait que ce pays est la confluence de mondes, de cultures, et que c'est ça sa grandeur. La grande Turquie, elle est là, dans le fait qu'elle est l'héritière de tant de monde, qu'elle a donné tant de langues, qu'elle a donné tant de minorités, que ces minorités ont interagi, qu'on en trouve toutes les traces. Vous voyez, quand vous êtes à Éphèse, c'est le monde grec, quand vous êtes au lac de Van, c'est le monde arménien, quand vous êtes à Djibektash, ce sont les Bektachis au cœur de la Cappadoce, un très beau lieu, un sanctuaire, soufi, pour aller vite. Au lieu de quoi, on veut construire une espèce d'identité tout à fait artificielle, qui ne serait que tourné vers l'avenir, qui ne retiendrait de l'Europe que finalement l'industrie, la technique, l'efficacité, l'armement, alors que justement l'Europe, si elle a une valeur, parce que l'Europe a commis beaucoup de fautes, mais si elle a une valeur, c'est le retour critique sur soi, la capacité de se critiquer et ne pas refaire.
Donc c'est un appel à l'autocritique que vous faites, en quelque sorte, à la Turquie. Et est-ce que vous pensez...
Les Turcs n'ont, beaucoup de Turcs ne m'ont pas attendu,
bien sûr.
Évidemment. Soyons, on est face à un peuple, encore une fois, d'exception. D'ailleurs, un peuple qui a cette capacité de s'examiner, si ce n'est que cette capacité de s'examiner est réservée aujourd'hui à des élites, parce que l'État écrit une histoire qui est une réécriture de l'histoire permanente. Et c'est ça qui ne va pas. Il faut sortir de cet enfermement.
Je vous remercie, Jean-François Colosimo. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie, et c'est publié aux éditions du CERF. Merci. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Jérémy Besset vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.